marathon.
Bon, je voudrais également rappeler que nous avions eu la chance sur cette antenne de recevoir Jane Goodall il y a quelques années, oui, et que j'ai rarement pu avoir l'occasion de voir dans les yeux d'une femme autant d'humanité. Ces personnes capables de consacrer leur vie à la condition animale sont généralement des gens d'exception.
Des grandes femmes.
Et tout à fait.
Les mains dans la terre à présent avec vous, Alain Baraton. Il est bien difficile de trouver aujourd'hui des légumes sans pesticides.
Des enquêtes récentes indiquent que 41% des légumes achetés dans le commerce contiennent des pesticides. Bien évidemment, c'est une moyenne et certains légumes semblent être un peu épargnés comme l'ail, l'oignon et les échalotes. Amateurs de choux de Bruxelles, régalez-vous, 89% d'entre eux contiennent des produits très joliment appelés phytosanitaires ou mieux encore phytopharmaceutiques. Je parle bien sûr des pesticides.
La France n'est peut-être pas d'ailleurs un exemple en Europe en matière de production bio.
Surtout quand on sait qu'il est dispersé chaque année dans la nature pas moins de 75 000 tonnes d'insecticides et autres poisons. Notre pays posséderait même le taux de dépassement de la limite autorisée le plus haut d'Europe. À en croire Colin Solaris, docteur en sciences politiques, spécialisé dans la santé, qui s'exprimait dans le Figaro, daté du 25 janvier.
Il est donc important de laver les légumes avant de les consommer.
Utile, bien sûr, pour éliminer les souillures de la terre, les déjections animales. Mais ne vous faites aucune illusion, Eric. Il ne suffit pas de passer sous l'eau une feuille de salade pour éliminer les produits, sinon les maraîchers seraient bien sûr dans l'obligation de traiter après chaque pluie.
Alors, explication, les pesticides employés sont des systémiques.
Pour être clair, précis et objectif, je lis simplement le dictionnaire. Systémique qualifie un produit phytosanitaire qui est absorbé par la plante, véhiculé par la sève et s'attaque aux parasites par l'intérieur de la plante. Vous savez maintenant que les produits dispersés sur les cultures ne sont pas sur les produits que vous mangez, mais dans les produits. Si ces derniers, à écouter les fabricants, sont sans danger, pourquoi faut-il, pour les utiliser, c'est noté sur les emballages, porter des lunettes, gants, masques et combinaisons? Pourquoi ne faut-il pas fumer ou manger en traitant? Pourquoi au contraire faut-il tenir compte du vent, des abeilles, des cours d'eau? Pourquoi encore faut-il ranger les bidons dans des armoires ventilées et fermées si ces produits, effectivement, n'étaient pas dangereux?
Et donc l'idéal pour manger sain, c'est votre conseil du jour, il faut produire soi-même les légumes. Enfin, c'est pas toujours facile.
Oui, mais il suffit parfois d'un petit lopin de terre, c'est pas toujours très compliqué. Il y a de plus en plus de jardins partagés également qui vous permettent de vous accueillir et de produire, bien entendu, les légumes les plus traités dans le commerce. Alors, quels sont ces légumes traités de manière abusive dans le commerce? Eh bien, le top des tops est le suivant. Les concombres et les courgettes, les tomates et en particulier les tomates cerises, les épinards qui contiennent en moyenne 7 pesticides et le record étant détenu par les pommes de terre, les céleris et les poivrons.
Et puis on va le rappeler, puisqu'on parle de bio, il faut manger les légumes de saison et privilégier les circuits courts.
Toujours, vous avez bien raison de le souligner.
Alain Baraton, vos conseils, vos réponses aux questions des auditeurs. Chloé, par exemple, vous demande, est-il exact, Alain, que les mégots peuvent être utilisés comme des insecticides?
C'est ce que je répondais il y a quelques années, je répondais oui. Je disais que les fumeurs ne devraient pas jeter leurs mégots, ils mettent ceux-ci dans une bouteille d'eau, ils laissent macérer l'ensemble, et c'est un insecticide remarquable. Oui, la nicotine est un insecticide remarquable, mais, sans vouloir me vanter, j'ai moi-même arrêté de fumer il y a maintenant longtemps.
D'où la prise de poids.
Oui, tout à fait. Et bon anniversaire, Patricia Martin. Hier, nous fêtions ici vos 68 ans, j'ai oublié de le dire.
Les vacheries pour vacheries ici, c'est pas possible.
Et donc, quand on sait les produits qu'on s'injecte dans le corps en fumant, quand on sait la toxicité des mégots, je me dis finalement, mettre ces produits dans la terre ou dans une plante, est-ce vraiment raisonnable? Alors, on va couper la poire en deux, comme on dit. Oui, la nicotine est un puissant insecticide. Non, on ne traitera pas dans les...
Pas des mégots dans la terre.
Voilà.
Béatrice vous demande, quand faut-il tailler les seringas?
Ah, j'adore le seringa. Au printemps, il dégage une senteur absolument incroyable. Ce sont des fleurs blanches, il y a les seringas doubles, c'est magnifique. Contentez-vous simplement de réduire de moitié les tiges qui ont porté des fleurs après la floraison.
Armand vous dit qu'il a en limite de propriété une haie de cyprès et son voisin, de son côté, il a des bambous. Et il vous dit, mes cyprès côté bambou ont roussi. Pourquoi?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le plus grave, le chancre qui se glisse sous l'écorce du cyprès qui peut engager le roussissement, le dépérissement et la mort du végétal. Dans quel cas il faut tout de suite couper le cyprès avant qu'il ne, j'allais dire, contamine les autres. Il peut y avoir la maladie des conifères qui est un chancre champignon qui se développe et qui peut être encouragé par les bambous qui font peut-être un écran, qui font de l'obscurité et qui gênent un petit peu la bonne croissance et la bonne aération du bambou, à moins qu'il s'agisse tout simplement des bambous qui sont gourmands en eau. Alors les cyprès, ils sont là, ils ont envie d'être heureux, ils regardent le soleil. Mais oui, mais toute l'eau leur est malheureusement pompée. Que font-ils? Ils roussissent. Donc s'il n'y a que ça, ce n'est pas grave. On arrosera les cyprès de temps à autre. S'il s'agit de conifères en souffrance qui ont des champignons, attention, on se dépêche de couper les parties contaminées et on évite la proximité avec trop de bambou quand même.
Le bambou, c'est un peu comme vous, il est très gourmand en eau, j'ai
oui,
bien compris.
Tout à fait, c'est une plante, je rappelle toujours, qui tient un peu, qui est porte-bonheur. Il est bon de tenir la vie par le bambou.
Effectivement, c'est un festival ce matin.
Non, c'est ridicule, j'en conviens.
Clara, on enchaîne. Clara dit qu'elle a un buis taillé, mais elle a dû le retirer du sol. Est-ce qu'elle peut le replacer au même endroit? Ça fait maintenant 10 ans et le buis n'a jamais récupéré sa santé depuis. Que faut-il faire?
Pour faire simple, donc Clara apparemment a transplanté un buis qui ne redémarre pas. Eh bien, la transplantation n'a pas fonctionné. Vous savez, la transplantation d'une plante, c'est un peu comme une transplantation cardiaque. C'est pour la plante quelque chose d'important, de grave. Il faut qu'elle puisse se reconstituer ses racines. Ce n'est pas toujours simple. Quand une plante transplantée ne se plaît pas, végète, on la retire du sol, on vérifie que les racines ne sont pas endommagées. Si tel était le cas, on les coupe avec précision, on remet un bon engrais dans la terre, on met un bon terreau, on réduit légèrement la voilure, à savoir, on taille légèrement le végétal, on arrose copieusement, même en ce moment, on attend, on espère, et logiquement, ça devrait redémarrer.
Un conseil lecture pour le week-end?
C'est une petite collection qui existe chez Ulmer. Il y a les auxiliaires au jardin, soigner les bio, tous les fruitiers ou tous les légumes. Là, il y a plein de campagnes de Claude Bureau, culture associée, remèdes végétaux. Écoutez, ça coûte 7,90€, plein de conseils, plein de photos.
On aurait tort de s'en priver.
Eh ben voilà, vous avez tout à fait trouvé le slogan.
La main verte d'Alain Baraton, à la semaine prochaine, Alain. Il est 7h51.